C'est l'état d'urgence.
Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
Il y a quand même beaucoup d'interdictions de manifestation, hein.
L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République.
La méthode est l'interrogatoire. Et l'interrogatoire devient une méthode lorsqu'il est conduit de façon à toujours obtenir une réponse. Nous devons avoir la ville à notre disposition, la passer au crible et interroger tous ses habitants.
C'est l'état d'urgence.
C'est lundi, c'est le fond du lundi, c'est le 122e jour de l'état d'urgence. À 13h, on va revenir avec Méga Combi sur l'état d'urgence pour une rediffusion d'une émission du 10 février. Et avant ça, on va parler menteur, petit menteur. Et en attendant, un petit peu de musique. Ouah.
Y avait-il des menteurs qui circulaient dans la manif de parapluie qui s'est tenue mardi 9? Non, c'était pas une manif de parapluie, c'était une manif contre la loi du travail. Et si vous étiez à Toulouse, vous l'avez vu, il y avait au moins 20 000 personnes qui ont battu le pavé pour affirmer leur mécontentement. Parmi tous ces gens qui se promenaient, beaucoup avaient quelques textes à distribuer. Il y en avait un que le Front du Lundi a sélectionné pour vous. Je le cite. Le Code du travail, ce texte qui régit la vie de plus de 17 millions de salariés, est le fruit des luttes ouvrières des 19e et 20e siècles. Ce droit, quotidien, protecteur, est plus que jamais essentiel alors que les conditions de travail se dégradent, que la souffrance comme les violences au travail explosent. De trop nombreux drames sont venus le rappeler cette année encore. Le gouvernement n'a de cesse de mettre à mal le Code du travail et multiplie les attaques à son encontre. Il a déjà été largement affaibli par la recodification menée entre février 2005 et mai 2008, sous couvert de simplification par la loi TEPA, qui a vidé de sa substance toute référence à une durée légale du travail, pour la réduction des moyens de contrôle de l'inspection du travail et par les attaques contre les représentations syndicales. Ce qui est exact, et puis ça continue toujours, hein, avec la loi du travail version Mel Khomri. Le gouvernement prévoit par exemple que les syndicats qui pourront ou non négocier un accord avec le patronat, un accord de branche ou un accord de l'entreprise, pourront représenter désormais 30% des salariés et non 50% comme c'était le cas avant. C'est-à-dire que tous les petits syndicats de jaune qui sont pro-patron pourront maintenant s'asseoir à la table de la négociation et pousser un petit peu la CGT un peu plus vers la porte. Quant à la durée légale du travail, rappelons aussi que la loi El Khomri prévoit, en cas de, je cite, de surcroît exceptionnel d'activité, de passer la journée de travail à 12 heures et pourquoi pas à 46 heures de boulot par semaine. La joie et l'allégresse. Forcément. Reprenons le texte. À l'unisson des exigences du MENEF, le gouvernement cherche aujourd'hui à lui porter un coup fatal. Conclusion, le Parti Socialiste refuse cette régression qui représente une négation de l'état de droit dans l'entreprise. Les Français ont besoin de plus de protection au travail, ce qui nécessite un code du travail fort. Oui, vous avez bien entendu, le Parti Socialiste, ce texte a été rédigé par les cadres du PS. C'était le 28 décembre 2010, à l'époque où Martine Aubry était première secrétaire du PS, et d'ailleurs elle avait mis la main à ce texte-là. Joli texte qui figurait sur le site internet du Parti Socialiste, jusqu'au 11 février et depuis il a mystérieusement disparu. En fait, aujourd'hui, pour le retrouver, il faut se rendre sur le site du PS, aller tout en bas à droite, trouver un petit onglet où il y a marqué nos archives et là cliquer dessus et ensuite faire une recherche pour espérer tomber dessus, alors qu'avant il était accessible quasiment en page d'accueil. Seraient-ils des menteurs, là, ces gens du PS ? Est-ce qu'ils nous mentiraient depuis le temps ? En fait, ils ne nous mentent pas plus que ceux qui nous parasitent les yeux et les oreilles et que l'on voit ou on entend à la télé et à la radio depuis des lustres et qui s'acharnent aussi sur le corps du travail. Vous savez, là, ce volumineux machin-là qui fait 1,5 kg. Et la preuve, non pas en image mais en son, avec ce petit montage réalisé par Nada Info qui va nous éclairer sur les menteurs qui nous entourent.
Vous pensez que s'il y a tant de chômage en France, et le chômage est massif, c'est à cause de notre droit du travail. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Est-ce que vous avez la preuve de cela ?
Pour gérer les 190 salariés de l'entreprise, il ne se sépare jamais de cet ouvrage volumineux.
Ah oui, c'est assez lourd. Hein.
Notre fameux code du travail, si lourd, avec ses près d'1,5 kg.
C'est le code du travail, je le repose, c'est crevant, quoique ça pourrait me faire la musculation.
Pour un poids d'1,4 kg, 1422 grammes exactement.
Vous êtes chef d'entreprise à Paris ?
Absolument, j'ai 450 salariés.
C'est beaucoup ?
C'est beaucoup.
Et c'est compliqué de gérer 450 salariés avec le code du travail actuel ?
Pierre Marolle dirige une PME spécialisée dans l'équipement pour l'aéronautique et la logistique. L'entreprise compte 210 salariés, mais Pierre Marolle se heurte à un obstacle, ce pavé d'1,5 kg.
1,5 kg, plus de 8000 articles, rarement limpides, difficile de s'y retrouver.
Le code du travail, pour lui, synonyme de casse-tête.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas un cabinet comptable pour gérer tout ça, bientôt il va falloir être juriste pour gérer le personnel.
Sans compter que ça, c'est le code du travail, mais il y en a au moins encore autant de jurisprudence.
Qui, avec les 600 pages de la loi, forment un ensemble de 1900 pages.
On est aidé par des spécialistes à faire l'exégèse de ce qui est écrit là-dedans, mais c'est plutôt compliqué, oui.
Trop touffu, trop complexe, selon le dirigeant, qui réclame une simplification du texte.
Est-ce que vous croyez que soit le code du travail, soit les réformes dont j'ai parlé, vous croyez vraiment que les chefs d'entreprise, ils comprennent quelque chose ?
Le droit du travail, c'est une forêt obscure pour initiés ou pour spécialistes.
Le code, c'est quand même un maquis invraisemblable de règles.
Il y a plus de
700 branches d'entreprise. Donc déjà, il faut réduire ce nombre de branches.
On veut faire le ménage dans les branches professionnelles. C'est vrai qu'il y en a 700. C'est vrai que c'est beaucoup trop. Alors on veut descendre à 400, on veut descendre à 200, même descendre à 100. Toutes ces branches-là, c'est les jurandes et les guildes de l'ancien régime. Et on n'ose pas y toucher. Il y en a qui font marrer. Allez, allons-y. Il y a effectivement une branche qui concerne les guides amazoniens. Les gars, ils sont 6 personnes. La branche des pipes et fume-cigarettes de Saint-Claude, ils sont moins de 80. Et puis alors, la plus belle, c'est celle des salaisons de morue du canton de Fécamp. Là, il y a un mec, ça fait marrer.
Combien d'arbres, combien de branches mortes avez-vous dû abattre pour que la lumière entre dans cette forêt et devienne une clairière?
C'est une très belle image.
Donc c'est sûr que c'est pas un mec pareil qu'on peut espérer moderniser le fonctionnement. Les salaisons de morue du conseil de Fécamp. Oui, mais écoutez, il faut tout partout. Faut que ça...
Les patrons de PME ont peur. Ils ont la trouille au ventre dès lors qu'il s'agit d'embaucher.
On commence à se dire que l'empilement des normes, des règles, des droits, des fausses protections crée un mécanisme qui dissuade l'embauche.
Est-ce que les prud'hommes, quand on est chef d'entreprise, ça fait peur?
Les prud'hommes, c'est la roulette russe. Selon si vous tombez sur un juge qui a la haine comme Monsieur Filoche ou quelqu'un qui comprend un peu l'entreprise, qui ne la caricature pas.
Comprenez cette colère, finalement, des petits patrons face aux prud'hommes qui se sentent désemparés, qui ont le sentiment de ne pouvoir bouger à cause des prud'hommes. Parce que c'est compliqué aux prud'hommes, parce que ça prend du temps, parce que ça nous coûte de l'argent,
et
parce qu'on n'a pas toujours la justice qu'on attend.
Je vous le disais tout à l'heure, qu'on nous laisse un petit peu organiser la vie de notre entreprise avec nos salariés, en confiance, en toute intelligence. On connaît nos activités, on connaît nos besoins, et je vous promets, si on nous laisse faire, on relancera l'emploi.
Oh, wow!
Nous savons comment gérer nos équipes, nous savons que nous avons des périodes creuses, des périodes pleines, et il faut qu'on puisse, en fait, en fonction des travaux que nous avons face à nous, pouvoir faire face avec de la souplesse.
Quand l'entreprise, qu'au niveau des salariés, les choses puissent se décider, oui pour les 35 heures, non pour les 35 heures, mais qu'il y ait vraiment cette liberté de ton, une véritable flexibilité pour de bon.
Ne plus imposer toutes les règles d'en haut, par l'État, par la loi, mais donner plus de place, de latitude aux entreprises et aux branches professionnelles. Il faut adapter et moderniser les règles pour dépasser une rigidité héritée d'une autre époque.
Ce qui est généré avant tout par le Code du travail, c'est de l'insécurité.
Avec le droit du travail, à force de sécuriser, de rendre ça trop rigide, trop complexe, bizarrement, ça finit par pénaliser les gens que c'était censé sécuriser et censé protéger.
Il est plus facile de divorcer, dans certains cas, que de rompre un contrat de travail. Là, par contre, c'est dans tous les cas. Rompre le contrat de travail est vraiment très, très difficile aujourd'hui.
C'est très difficile de dire, on va réformer le droit du travail, mais attention, on ne touchera rien des avantages acquis au fil des décennies aux salariés. Parce que précisément, le problème, il est là. Les avantages sont trop importants. Et les salariés, à force d'être trop protégés, ne sont plus protégés.
J'ai l'impression que le gouvernement, eh bien, ne veut pas faire de vagues, ne veut pas se fâcher avec la gauche, avec les syndicats, puis au-delà même, avec les retraités, les handicapés.
C'est possible d'assouplir cet énorme code du travail en touchant ni à la durée légale du travail, ni au SMIC, ni même au contrat de travail.
Est-ce que l'action du gouvernement ne va pas faire pchit, hein, justement? Est-ce que le gouvernement n'est pas condamné à l'inaction?
Aujourd'hui, la souplesse et les dérogations, elles existent. Mais elles sont toujours vues comme honteuses, me dit le conseiller de Matignon sur ces questions-là. Désormais, eh bien, elles seront évidentes, intégrées, acceptées. On pourra déroger aux règles.
On y arrive.
Les 35 heures, ça n'est plus qu'une façade en carton pâte. Il n'y a plus rien dedans.
Les 35 heures ont été une mauvaise idée.
Oh, les 35 heures, c'est fini. C'est comme Capri, les enfants. On peut arrêter.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est adaptable, que l'efficacité prime. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle le libéralisme. Et c'est porté par une figure incontestable de la gauche, Robert Badinter. C'est malin.
Vive l'insécurité pour les patrons. Non, promis, on ne va pas les laisser faire. Avec cette histoire de code du travail, comme on ne va pas non plus les laisser faire. Avec cette histoire du compteur Linky, oui, parce qu'il existe dans ces pays des gens qui refusent d'accueillir chez eux le nouveau compteur électrique Linky, lequel transmet automatiquement, mais à distance, les relevés de consommation. Alors, en fait, il est en déploiement depuis décembre. Ça touche d'ailleurs les alentours de Toulouse. Je crois qu'il y a Colomiers, je crois qu'il y a certains quartiers qui sont déjà touchés par ce fléau. Alors certes, hein, sur 120 000 compteurs installés en 3 mois, les refus d'installation ne représentent que 1,5% du total, soit quand même 1800 usagers. Mais refuser Linky à cause des ondes électromagnétiques qu'il émet, n'est-ce pas un peu une pure parano ? Petit rappel, pour récupérer et transmettre à distance nos consommations, pour les moucharder en fait, hein. Ce compteur utilise la technologie du courant porteur en ligne, le CPL, lequel consiste à superposer au signal électrique existant un deuxième signal modulé à haute fréquence. C'est lui qui va propager dans toute la maison, à travers les câbles électriques, dans les chambres, dans la cuisine, enfin partout, les fameuses ondes électromagnétiques qui font débat. Alors, elles sont nocives ou pas ces ondes ? Aucun risque, jure la direction de RDF. Pas sûr, explique de son côté Jeannine Le Calvez, qui est présidente de Priartherm, une association spécialisée sur la question des ondes et santé. Quelle sera la réalité, dit-elle, de ce rayonnement ? Quels seront les niveaux d'exposition des usagers ? On n'en sait rien. À ce jour, aucune étude publique d'impact n'a été effectuée. Et c'est parce que nous avons interpellé en juillet dernier le ministère de la Santé qu'une expertise est enfin en cours. Eh ben ouais, depuis 2011, le CPL est quand même classé par l'Organisation mondiale de la santé comme potentiellement cancérogène pour l'homme, au même titre d'ailleurs que les autres radiofréquences utilisées par les systèmes de télécom comme la radio, la télé, la téléphonie mobile, le Wi-Fi, etc. Et donc il a fallu attendre le 30 septembre de l'année dernière, soit 2 mois avant le déploiement de Linky, pour que le ministère de la Santé se réveille enfin et demande à l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, de lancer la première expertise publique nationale sur le sujet. Le temps qu'elle soit bouclée, cette étude, ce sera la fin de l'année, et ben voilà, il y aura 3 millions de compteurs qui auront été installés, enfin théoriquement bien sûr, hein. Car sur le terrain, la fronde gagne. Stéphane Lhomme, qu'on reçoit souvent par téléphone dans l'émission, qui est un anti-nucléaire notoire, et qui est également conseiller municipal de Saint-Macaire en Gironde, commune qui a déjà refusé l'installation du nouveau compteur de gaz qui s'appelle Gaspar Warfwarf, a mis à disposition des élus un site internet avec des délibérations type pour refuser la pose des nouveaux compteurs sur le domaine communal. Une quarantaine de communes se sont déjà opposées à l'installation des compteurs communicants, dont dans la majorité des cas, il s'agit de Linky, raconte Stéphane Lhomme. Priartherm a aussi donc sonné l'offensive en proposant aux usagers de télécharger une lettre de refus type. Tant qu'on n'aura pas de moratoire, on continuera. Du côté de RDF, on serre les dents. On est conscient de leurs interrogations, mais nous avons un cap à tenir et des objectifs à atteindre. Et d'envoyer le 29 février à toutes les mairies de France, je dis bien à toutes les mairies de France et de Navarre, un courrier expliquant que les niveaux d'émissions sont extrêmement faibles et très inférieurs aux normes réglementaire en vigueur. Le même jour, histoire d'impressionner les récalcitrants, l'Association des maires de France, dont si je ne m'abuse c'est bien Jean-Luc Moudenc, notre maire qui en est président, a envoyé au même maire un email signalant que selon une analyse juridique, s'opposer au déploiement des compteurs Linky serait risqué. Bientôt un CRS devant chaque compteur électrique communicant ou quoi. Sauf que ce risque, il est nul quoi, parce que pour le moment on peut refuser Linky et visiblement, même s'ils sont en train de se gratter la tête là-dessus, il n'y a absolument aucune sanction qui n'est prévue. Et qui dit EDF dit également nucléaire.
大変だ大変だ大変だ大変だニュクリア大変だ大変だ大変だ大変事故ったら大変だ大変だ大変だ大変だ福島大変だ大変だ大変やらかした放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない一度じこればダイパニック沈没寸前のタイタニック チェルノブイリ今じゃゴーストタウン罪もない子供が甲状腺がんはじめまして噂のプルトニウム安全神話福島で終わるもう食べられなくなる農作物どこまでいつまで汚染される放射の強い放射の偉い誰も差別しない誰にも負けない放射の強い
Cinq ans après, à Fukushima, la catastrophe ne fait que commencer, comme le note le physicien nucléaire, qui est très bon d'abord, d'ailleurs, David Boilet, qui se rend régulièrement le fou sur place et qui vient de publier un rapport accablant sur la situation actuelle à Fukushima. D'ailleurs, le groupe qu'on écoutait là juste à l'instant, c'est un groupe japonais qui s'appelle Ainu Band et qui fait donc dans le rap reggae et qui a un morceau sur le nucléaire et plus précisément sur Fukushima. Donc, dans un rayon de 20 km, environ 160 000 personnes avaient dû s'enfuir et 100 000 sont toujours déplacées. Ces réfugiés nucléaires, le gouvernement a décidé de ne plus les indemniser à partir de mars 2018. Ils ont déjà coûté près de 50 milliards d'euros, hein, ça commence à bien faire, et d'organiser à la hussarde leur retour sur place. Les territoires contaminés ont été répartis en trois zones. L'une d'elles est dite de retour difficile. Bon, faut dire qu'on y reçoit plus de 50 millisieverts par an, et ça risque de durer entre 10 ans et plusieurs siècles. Donc je vous rappelle que la norme c'est acceptable, c'est 1 millisievert. Là, il y en a 50. Ceux qui habitaient là sont priés d'aller voir définitivement ailleurs. Dans la seconde zone, là, on reçoit entre 50 et 20 millisieverts. Et les actions de décontamination sont toujours en cours. Alors voilà, on gratte la terre, on émonde les arbres, on lave les toits, et voilà, des villes et des villages considérés comme oasis bientôt habitables, au milieu de campagnes et de forêts toujours hautement contaminées. Mais bon, ça, on s'en fout. C'est dans la troisième zone que les rescapés de Fukushima viennent d'être invités à revenir fissant. La radioactivité y oscille entre 1 et 20 millisieverts. La Commission internationale de protection radiologique recommande de ne pas s'exposer quand même à plus de 1 millisievert par an, hein, pas par jour, par an. Mais les autorités japonaises étant pressées, elles ont trouvé la parade. Les réfugiés n'auront qu'à s'équiper d'un dosimètre individuel, sachant qu'en restant enfermé chez soi, on ne reçoit qu'environ 40% de la radioactivité, à eux de gérer leur exposition. Bon, les enfants, par exemple, seront priés de ne pas trop jouer dehors, de ne pas aller gratter la terre. Hein. Et puis s'ils le font, eh bien, ils se démerderont. Quoi.
Ça va faire un paquet d'assignés à résidence.
T'as vu ça, assignés à résidence par le nucléaire, l'enfer. Quoi. Et puis pour plusieurs siècles en plus, hein. Là on est quand même tranquille. Ah, rien de tel qu'une bonne catastrophe nucléaire, quand même, de temps en temps, hein, ça remet les choses en place. Jacques Repussard, avec un nom pareil, le patron de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire français, applaudit dans le JDD du 6 mars. Il faut, là où cela est possible, organiser un retour rapide et restaurer une liberté individuel vis-à-vis du risque radiologique, comme c'est joliment dit. On devine ce qui nous attend hein, en cas de Fukushima à la française. Détail, dans toutes ces zones sont abandonnées, ça et là, bon voilà, de temps par là, par-ci, par-là, 9 millions de sacs de mètres cubes emplis de terre et de végétaux hautement contaminés, qu'il faudra bien un jour ou l'autre évacuer. À part ça, ben, comment se porte la centrale? Ben, ça va, écoute, hein, 7000 salariés s'y relaient en permanence, les combustibles fondus des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 enfouis dans les sous-sols continuent à chauffer et d'être méchamment radioactifs. Bon, voilà, seuls des engins télécommandés tentent de s'en approcher. Bon, de l'eau de refroidissement y est injectée jour et nuit. Elle s'y fait contaminer, on la pompe, on la décontamine en partie et puis on la stocke dans des cuves. Il en existe déjà plus d'un millier de ces cuves. Bah, en fait, il en faut une nouvelle tous les deux jours. Bah voilà, et après, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ces cuves, mais bon, on va les mettre avec les déchets. Et puis voilà, il y aura des cuves et des sacs. C'est sympa aussi, quoi. C'est vrai que ça donne une ambiance, quoi. Restent aussi les piscines de ces mêmes réacteurs 1, 2 et 3 qui continuent encore, qui contiennent encore du combustible nucléaire et à retirer le plus vite possible pour éviter une nouvelle catastrophe. Cette opération a été menée avec succès pour la piscine du réacteur numéro 4, la plus facile d'accès, hein, car elle était vide de combustible. Pour les trois autres, ça ne va pas être de la tarte. Restera ensuite à entamer le démantèlement du tout. Bon, voilà, ça, on en reparlera dans quelques siècles, on verra bien, quoi. Bref, hein, on est bien barré, c'est bien parti pour ne pas s'arranger, mais en tout cas, ça nous donne un peu une ambiance pour une éventuelle catastrophe nucléaire qui est plus ou moins programmée quand même en France. Je crois que nous arrivons à la fin de cette demi-heure qui était donc palpitante, hein, comme vous l'avez entendu, et on va reparler état d'urgence, je crois.
Ouais, état d'urgence avec Megacombi qui est allé voir plusieurs assignés à résidence et plusieurs gens qui ont été perquisitionnés et qui sont pas contents.
Oh,
les gens sont pas contents.
Les gens ne sont pas contents. Ils manifestent. Ils veulent pas de Linky, ils veulent pas de nucléaire, ils ne veulent rien.
C'est l'état d'urgence.